Le journal des idées, Jacques Munier.
France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques.
Bonjour Denis.
Jacques, dans les contextes de la mondialisation, la lutte des classes a-t-elle encore un sens?
Oui, c'est la question posée dans les pages débat de l'Humanité. Pour Jean-Luc Nancy, le philosophe, non seulement elle n'a rien perdu de son actualité, mais elle s'impose de manière plus évidente que jamais. Car, souligne-t-il, les classes sont le produit social de la production devenue la raison d'être d'un monde qui se conçoit comme la croissance indéfinie de sa propre capacité de croissance. Dans ce processus, ceux qui croient avec la croissance productrice, fût-elle purement financière, c'est l'écart entre les places dévolues aux populations et aux personnes. Des écarts et des inégalités qui s'aggravent avec, à l'échelle du monde, d'énormes rivalités de production et d'accumulation qui déplacent les pôles de la puissance en causant souffrance et même famine. C'est dans ces écarts qui se creusent que résident les ferments d'une lutte qui reste celle des classes, même si ce n'est plus seulement selon le schéma de la propriété des moyens de production, mais, affirme Jean-Luc Nancy, selon une autre configuration, celle de la propriété des fins, des finalités. Et objectifs. Il faut pour cela renouveler de fond en comble la pensée de ce qui peut être propre aux fins, la pensée donc de ce qui peut être propre à l'inappropriable. Ce n'est plus une lutte finale, c'est une lutte pour trouver d'autres fins. La diversification des mouvements sociaux qui dépassent les rapports de classe pourrait bien en constituer l'indice le plus visible. Et au point de vue global, la lutte contre le changement climatique est un vecteur de réduction des inégalités entre grandes puissances et pays émergents. À la veille du One Planet Summit qui se tiendra demain à Paris, Joël Cossardo fait le bilan dans les échos de la COP23 qui vient de se tenir à Bonn en démentant le sentiment d'échec qui a prévalu à sa conclusion et qui était largement dû au désengagement de Washington de l'accord de Paris. Outre que ses objectifs, ceux de l'accord de Paris, n'ont pas été remis en cause, l'harmonisation des engagements de réduction des gaz à effet de serre permet de réduire, je cite, le clivage entre les pays du Nord qui portent une responsabilité historique dans le réchauffement et les pays du Sud qui en font les frais et revendiquent un droit légitime au développement. C'est ainsi que l'échéance des objectifs varie entre ces pays. L'enjeu est de réussir à les placer tous sur une même ligne d'arrivée sans que cela n'entraîne un relâchement chez certains ou au contraire une contrainte insupportable pour les nations en développement. Par ailleurs, la conférence de Bonn a fait émerger de nouveaux acteurs non étatiques à la pointe du combat climatique. C'est le cas notamment de la coalition des villes, des entreprises et des universités adhérentes à l'America's Pledge, qui pèse plus de la moitié du PIB des États-Unis et qui a compensé le retrait décidé par Donald Trump.
Et la question à l'ordre du jour du sommet qui se tient à Paris demain est celle du financement.
Eh oui, le nerf de la guerre. Dans la page débat de Lacroix, Gaël Giraud résume les enjeux. Le but est d'arriver à des engagements forts en matière de financement, domaine où l'on est particulièrement en retard. Le coût des infrastructures qui permettront de limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés à la fin du siècle est situé entre 43 milliards d'euros et 77 milliards pour les 15 prochaines années. C'est l'ordre de grandeur du PIB mondial annuel. Pour l'économiste de l'Agence française de développement, la finance est une partie du problème mais aussi de la solution. Même si les investissements verts sont moins rentables que les investissements financiers, c'est l'occasion de réorienter vers l'économie réelle, verte, les milliers de milliards créés ces dernières années par les banques centrales via les politiques d'assouplissement monétaire. Cet argent a été capté par les marchés financiers où il alimente une bulle spéculative. Des annonces devraient être faites demain pour réorienter le crédit bancaire des fonds associés au crédit brun, finançant les énergies fossiles, vers les crédits verts par un système de bonus-malus.
L'économiste Joseph Stiglitz s'en prend au monopole qui, selon lui, étouffe l'innovation et décourage l'investissement.
Oui, et qui sont, selon lui, au cœur de dysfonctionnement de l'économie américaine. Il s'en explique dans les pages débat de l'Obs. Alors que les taux d'intérêt sont au plus bas, l'investissement est très faible, du fait que lorsqu'on est un monopole qui a un rendement moyen élevé, le rendement marginal que procure un nouvel investissement est faible. En ligne de mire, le pouvoir des Big Five, les cinq grandes entreprises technologiques que sont Google, Amazon, Facebook, Apple, et Microsoft. Microsoft. Les dispositions fiscales décidées par Trump aggravent la situation et c'est pourquoi Joseph Stiglitz en appelle à l'Europe pour mettre un terme aux montages qui permettent aux dénommés GAFAM de détourner l'argent des impôts sans l'investir dans l'économie réelle.
Merci beaucoup Jacques Mounier, je vous souhaite un bon début de semaine. Vous pouvez podcaster le journal des idées de Jacques Mounier sur les sites franceculture.fr.